France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Que seraient aujourd'hui les lettres espagnoles sans ces piliers, ces géants de l'Amérique latine, de Borges à Neruda et tant d'autres, ces monstres qui inventèrent une littérature d'étonnement devant le ciel intact du Nouveau Monde? Nous allons écouter, dans l'heure qui vient, des lectures de plusieurs de ces grandes figures latino-américaines, Jorge Luis Borges, une nouvelle, Le jardin des sentiers qui bifurquent, Alejo Carpentier, avec un extrait de son roman Le siècle des Lumières, Miguel Ángel Asturias, pour son livre Weekend au Guatemala, Juan Rulfo et sa nouvelle Macario, et Pablo Neruda, avec son grand poème épique, Le chant général.
RTF France 3 Nationale présente Domaine étranger. Aujourd'hui, littérature espagnole de l'Amérique du Sud, première émission, par Severo Sardui. Avec le concours de Françoise Fechter, Jacqueline Moran, Anne Pérez, Raymond, Michel Bouquet, Roger Dumas, Raymond Jourdan, Pierre Leproux, Renaud Marie, Michel Vitold. Réalisation Georges Gravier.
Depuis le nord incandescent du Mexique jusqu'au sel vivant du Chili et aux larges plaines argentines, la langue espagnole a uni la diversité des paysages, des hommes, des passés. Un seul pays, le Brésil, échappe à ce cœur, à cet accord. La langue, don premier des conquérants espagnols, la langue, la réalité première, fut répandue comme une pluie fine d'abord sur les îles des Caraïbes, sur Cuba et son sable humide, où s'enfonça l'étendard de Colomb, puis sur le sang et l'or du Mexique, sur le Guatemala traversé par l'éclair des tigres mayas, sur le Venezuela et ainsi jusqu'au gel, jusqu'au sud, jusqu'à la nuit métallique du Chili. En ce temps-là, lorsque nous, Américains du Sud, reçûmes la réalité des nouvelles paroles, lorsque nous découvrîmes l'Europe, les grands temples grecs et gothiques étaient depuis longtemps achevés. Les peintres reproduisaient déjà les coupoles de Florence. Mais à ces Espagnols qui nous apportaient leurs paroles, nous donnâmes, nous, d'autres paroles, d'autres animaux, d'autres pierres, d'autres arbres, d'autres dieux. C'est de là, de cette destruction et de cette fondation où disparurent nos langues les plus anciennes et où nous unit l'idiome importé de Castille, que part notre littérature. On pourrait dire qu'à côté des théogonies précolombiennes, du grand calendrier mexicain, du Popol Vuh, des poèmes inscrits sur la pierre, vient se placer déjà le livre de bord de l'explorateur. Livre où déjà paraît notre attitude fondamentale, l'étonnement. Étonnement devant le ciel intact du Nouveau Monde, devant le sable d'une lumière pas encore vue, devant les hommes, les oiseaux et les rois couverts d'or. Christophe Colomb au milieu de la mer Océane. La nuit immobile, les bateaux figés. L'amiral interprète les premiers signes et fonde notre poésie.
Or va échoir du ciel un merveilleux rameau de feu, du ciel dans la mer, à 4 ou 5 lieues des navires.
Et plus loin,
toute la nuit, ils ouïrent le passé des oiseaux.
Et descendu à terre,
l'herbe était haute comme l'avril et le mai en Andalousie. Il s'installa en une barque et remonta le fleuve très avant. et déclara que c'était un grand plaisir de voir ces verdures et plantations d'arbres et tous ces oiseaux, tant qu'il ne serait pu retourner, de crainte de ne les plus voir.
Littérature arcadienne, littérature de l'étonnement, littérature de fondation, comme dit Octavio Paz. Mais surtout, littérature de l'ornement végétal, fleuri. Ce sont là les fondements de ce que par la suite on appellera le baroque naturel de l'expression américaine. Mais faisons un saut dans le temps, celui de l'histoire et celui des lettres, jusqu'au moment où un écrivain, cet homme étonné dont la mission est de nommer les choses, se situe par rapport à soi-même, à sa réalité et à sa langue. Vers lequel des deux versants va-t-il se tourner ? Vers le monde que nous a ouvert l'Espagne, ou bien vers ce monde immédiat que l'Espagne nous apprend à voir sur notre propre terre, celui de notre propre passé. En fait, les deux courants se partagent nos lettres depuis toujours, et jamais l'écart n'a été plus clair qu'aujourd'hui. D'un côté, une écriture poétique, savante, tournée vers des univers culturels lointains, ceux d'Europe et même d'Asie. De l'autre côté, une littérature basée sur la reproduction de la réalité, ou mieux, sur le projet de modifier cette réalité en usant d'un langage direct et contestataire. Voici quelques pages caractéristiques de la première tendance, où les thèmes, tous chinois ou européens, s'entrecroisent en un concert étrange. Entrons dans ce jardin du hasard et du temps, ce jardin aux sentiers qui bifurquent.
Le chemin descendait et bifurquait dans les prairies déjà confuses. Une musique aiguë et comme syllabique s'approchait et s'éloignait dans le va-et-vient du vent, affaiblie par les feuilles et la distance. Je pensais qu'un homme peut être l'ennemi d'autres hommes, d'autres moments, d'autres hommes, mais non d'un pays. Non des vers luisants, des mots, des jardins, des cours d'eau, des couchants. Sur ce, j'arrivais à un grand portail rouillé. Entre les grilles, je déchiffrais une allée et une sorte de pavillon. Je compris soudain deux choses. La première, banale, la seconde, presque incroyable. La musique venait du pavillon. La musique était chinoise. C'est pourquoi je l'avais acceptée pleinement sans y faire attention. Je ne me rappelle pas s'il y avait une cloche ou une sonnette, ou si j'appelais en frappant dans mes mains. Le crépitement de la musique continua. Mais du fond intime de la maison, un lampion s'approchait. Un lampion que les troncs d'arbres rayaient et annulaient par moments. Un lampion en papier qui avait la forme des tambours et la couleur de la lune. Un homme de grande taille le portait. Je ne vis pas sa figure, car la lumière m'aveuglait. Il ouvrit le portail et dit lentement dans ma langue
« Je vois que le pieux Yupen tient à adoucir ma solitude. Vous voulez sans doute voir le jardin ?»
Je reconnus le nom d'un de nos consuls et je répétai déconcerté
« Le jardin ?»«
Le jardin aux sentiers qui bifurquent. »
Quelque chose s'agita dans mon souvenir et je prononçai avec une incompréhensible certitude
« Le jardin de mon ancêtre Tsuipen. »
« Votre ancêtre ? Votre illustre ancêtre ? Entrez. »
Le sentier humide zigzaguait comme ceux de mon enfance. Nous arrivâmes dans une bibliothèque de livres orientaux et occidentaux. Je reconnus, reliés en soie jaune, quelques volumes manuscrits de l'encyclopédie perdue que dirigea le troisième empereur de la dynastie lumineuse et qu'on ne donna jamais à l'impression. Le disque du gramophone tournait, à côté d'un phénix en bronze. Je me rappelle aussi une grande jarre de la famille Rose. Une autre, antérieure de plusieurs siècles, ayant cette couleur bleue que nos artisans ont copiée sur les potiers persans.
Étonnante destinée que celle de Tsupen, gouverneur de sa province natale, versé dans l'astronomie, l'astrologie et l'interprétation inlassable des livres canoniques, joueur d'échecs, fameux poète et calligraphe, il abandonna tout pour composer un livre et un labyrinthe. Il renonça au plaisir de l'oppression, de la justice, du lit nombreux, des banquets et même de l'érudition, et se cloîtra pendant 13 ans dans le pavillon de la solitude limpide. À sa mort, ses héritiers ne trouvèrent que des manuscrits chaotiques. Sa famille, comme sans doute vous ne l'ignorez pas, voulut les adjuger au feu. Mais son exécuteur testamentaire, un moine taoïste ou bouddhiste, insista pour les faire publier.
Les hommes de la race de Tsupen exècrent encore ce moine. Cette publication fut insensée. Le livre est un vague amas de brouillons contradictoires. Je l'ai examiné naguère. Au 3e chapitre, le héros meurt. Au 4e, il est vivant. Quant à l'autre entreprise de Tsupen, son labyrinthe...
Voici le labyrinthe,
dit-il, en me montrant un grand secrétaire laqué. Un labyrinthe en ivoire, un labyrinthe minuscule.
Un labyrinthe de symboles, un invisible labyrinthe de temps. C'est à moi, barbare anglais, qu'il a été donné de révéler ce mystère transparent. Après plus de 100 ans, les détails ne peuvent être reconstitués, mais il n'est pas difficile de conjecturer ce qui se passa. Tsupen a dû dire un jour « Je me retire pour écrire un livre » et un autre « Je me retire pour construire un labyrinthe ». Tout le monde imagina qu'il y avait 2 ouvrages. Personne ne pensa que le livre et le labyrinthe étaient un seul objet.
Albert se leva. Pendant quelques instants, il me tourna le dos. Il ouvrit un tiroir du secrétaire en or patiné. Il revint avec un papier jadis cramoisi, maintenant rose, mince et quadrillé. Le renom de calligraphe de Tsupen était justifié. Je lus sans les comprendre, mais avec ferveur, ces mots qu'un homme de mon sang avait rédigés d'un pinceau minutieux. Je laisse aux nombreux avenirs, non à tous, mon jardin aux sentiers qui bifurquent. Je lui rendis silencieusement la feuille.
Avant d'avoir exhumé cette lettre, je m'étais demandé comment un livre pouvait être infini. Je n'avais pas conjecturé d'autre procédé que celui d'un volume cyclique circulaire, un volume dont la dernière page fut identique à la première, avec la possibilité de continuer indéfiniment. Je me rappelais aussi cette nuit qui se trouve au milieu des 1001 nuits, quand la reine Scheherazade, par une distraction étonnante du copiste, se met à raconter textuellement l'histoire des 1000 nuits au risque d'arriver de nouveau à la nuit pendant laquelle elle la raconte, et ainsi jusqu'à l'infini. Je reçus d'Oxford le manuscrit que vous avez examiné. Je compris presque sur le champ. Le jardin au sentier qui bifurque était le roman chaotique. La phrase « nombreux avenirs, non à tous » me suggéra l'idée de la bifurcation dans le temps. Non dans l'espace. Une nouvelle lecture générale de l'ouvrage me confirma cette théorie. Dans toutes les fictions, chaque fois que diverses solutions se présentent, l'homme en adopte une et élimine les autres. Dans la fiction du presque inextricable Tsupen, il les adopte toutes, simultanément. Il crée ainsi divers avenirs, divers temps, qui prolifèrent aussi et bifurquent. Dans l'ouvrage de Tsupen, tous les dénouements se produisent. Chacun en est le point de départ d'autres bifurcations. Parfois, les sentiers de ce labyrinthe convergent. Par exemple, vous arrivez chez moi,
Mais dans l'un des passés possibles, vous êtes mon ennemi. Dans un autre, mon ami.
Dès cet instant, je sentis autour de moi et dans l'obscurité de mon corps une invisible, intangible pullulation. Non la pullulation des armées divergentes, parallèles et finalement coalescentes, mais une agitation plus inaccessible, plus intime, qu'elle préfigurait en quelque sorte. Stephen Albert poursuivit.
Je ne crois pas que votre illustre ancêtre ait joué inutilement aux variantes. Je sais que de tous les problèmes, aucun ne l'inquiéta et ne le travailla autant que le problème insondable du temps. Eh bien, c'est le seul problème qui ne figure pas dans les pages du jardin. Il n'emploie même pas le mot qui veut dire temps. Comment vous expliquez-vous cette omission volontaire ?
Je proposai plusieurs solutions, toutes insuffisantes. Nous les discutâmes. À la fin, Stephen Albert me dit...
Dans une devinette dont le thème est le jeu d'échecs, quel est le seul mot interdit ?
Je réfléchis un moment et répondis « Le mot échec ?»
Précisément. Le jardin ou sentier qui bifurque est une image incomplète, mais non fausse, de l'univers tel que le concevait Tsupen. Contrairement à Newton et Schopenhauer, votre ancêtre ne croyait pas à un temps uniforme, absolu. Il croyait à des séries infinies de temps, à un réseau croissant et vertigineux de temps divergents, convergents et parallèles. Cette trame de temps qui s'approche, bifurque, se coupe ou s'ignore pendant des siècles, embrasse toutes les possibilités. Nous n'existons pas dans la majorité de ces temps. Dans quelques-uns, vous existez, et moi pas. Dans d'autres, moi, et pas vous. Dans d'autres, tous les deux. Dans celui-ci, que m'accorde un hasard favorable, vous êtes arrivé chez moi. Dans un autre, en traversant le jardin, vous m'avez trouvé mort. Dans un autre, je dis ces mêmes paroles, mais je suis une illusion, un fantôme.
Dans tous, articulai-je non sans un frisson, je vénère votre reconstitution du jardin de Tsuipen et vous en remercie.
Pas dans tous. Le temps bifurque perpétuellement vers d'innombrables futurs. Dans l'un d'eux, je suis votre ennemi.
Ces pages étaient extraites du Jardin des Sentiers qui bifurquent, une des fictions de Borges. Je crois que ce conte laisse voir très clairement le schéma central de toute l'œuvre de Borges. Le labyrinthe, le jeu des pensées qui bifurquent et convergent, bref, une structure qui se prête au baroque et qui surtout, il convient de le dire, enveloppe une image du temps. Le labyrinthe est le temps, un temps sinueux et sans continuité, ou plutôt une pluralité de temps brisés et superposés. Borges est né avec ce siècle. Argentin d'origine portugaise et de formation européenne, il a écrit toute son œuvre à Buenos Aires, où l'on prétendit longtemps qu'il était plus apprécié sur les rives de la Seine que sur celles de la Plata. Borges a enthousiasmé deux générations d'écrivains de langue espagnole, et l'on peut presque dire qu'aucun écrivain important de notre temps n'échappe à son influence, depuis le Mexicain Octavio Paz jusqu'à l'Argentin Cortázar, en passant par le Cubain José Lezama Lima, deux générations, celle d'après 18 et celle d'après 45, une revue, une œuvre qui utilise tous les genres, poésie, conte, essai, critique, voilà ce qu'aura animé Borges en remplissant bien le destin du poète qui est d'être aimé et haï tout à la fois. L'œuvre de Borges aborde tous les thèmes. Une musique chinoise, une montagne couverte de pins enneigés comme dans un dessin à l'encre de la dynastie Sung, un tigre asiatique rayé, royal, que seuls peuvent attaquer des hommes de guerre abrités dans leur castelet juché sur un éléphant, une citation de l'Énéide, de Dante, voire d'un philosophe ou d'un mathématicien inexistant, inventé pour les besoins de la fiction, pour que soit complète la trame du conte. Toutes les civilisations se mélangent. La grande muraille de Chine est Coleridge, le Quichotte est l'anecdote quotidienne, une rue de Buenos Aires est le Styx. Ce qui unifie tous ces thèmes, c'est l'écriture. Une écriture surprenante, précise, minutieuse, et pourtant jamais explicite, remplaçant toujours l'exposition par le sous-entendu, l'appel à l'intuition. Quand Borges écrit « Je compris soudain deux choses, la première banale, la seconde presque incroyable, la musique venait du pavillon, la musique était chinoise. » On voit bien que le moindre adjectif, un article, une virgule, sont disposés par lui avec une science flaubertienne, comme si, pour lui aussi, il existait une harmonie préétablie entre le phonique et l'exact, une relation nécessaire entre le mot juste et le mot musical. Mais la justesse, ici, cerne un rapprochement inattendu et volontiers se met au service de l'ironie. L'exactitude des mots ne limite pas la richesse du sens, bien plutôt, elle l'accentue. En fait, l'écriture sert un emboîtement de thèmes concentriques. Le jardin des sentiers qui bifurquent est d'abord un jeu de hasard, de possibilités qui régissent la trame de l'univers. En seconde approche, le narrateur fuit devant une menace de mort. Pour lui, chaque bifurcation, chaque tournant à gauche représente un destin possible, comme pour le voyageur perdu au cœur du labyrinthe. Même parvenu à la maison, il envisage deux issues. Cet Albert qui le reçoit peut être ou son ami ou son ennemi. Inutile de dire, et c'est la troisième approche, que celui qu'on fuyait est entré lui-même dans le jardin, que le narrateur va tuer Albert et qu'enfin, au fond du jardin, se tient la mort. Un jardin, des chemins qui se ramifient, la mort, voilà qui définit parfaitement l'œuvre de Borges. Ses détracteurs partent de là pour la juger trop à la française ou trop gratuite. Il est bien vrai que dans cette œuvre, les traits typiques argentins et la couleur locale sont pour ainsi dire absents. Rien ne nous permet de reconnaître du premier coup d'œil Buenos Aires ou même l'Amérique du Sud en général. Pourtant, qu'on y fasse attention. Il y a dans ces pages une mélancolie, une pudeur, un certain fatalisme qui sont très argentins, et même, on pourrait dire plus, uniquement argentins. La poésie traditionnelle des gauchos, les accordéons de Buenos Aires, ou tout simplement le style mélodramatique et romantique de Gardel, le plus célèbre des chanteurs de tango, sont autant de témoins de cette même argentinité. Il ne serait pas risqué d'affirmer que c'est le même souffle qui traverse les poèmes gaucho de Martín Fierro, les crépuscules de la pampa, le pathétique des tangos, le jardin dans lequel nous nous sommes aventurés tout à l'heure, et les personnages que nous allons connaître à présent. Un homme et un léopard qui pourtant viennent de très loin, d'un vers de la Divine Comédie et dont le destin, leur place dans un vers, fut déterminé par le hasard, par un mot que Dieu prononça comme en rêve.
Depuis le crépuscule de l'aube jusqu'au crépuscule du soir, un léopard, dans les dernières années du XIIe siècle, voyait quelques planches, quelques barreaux verticaux, des hommes et des femmes interchangeables, peut-être une rigole de pierre avec des feuilles sèches. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir qu'il aspirait à l'amour et à la cruauté, au brûlant plaisir de déchirer les chairs et au vent chargé de l'odeur des proies. Pourtant quelque chose en lui se révoltait, et Dieu lui parla en rêve. Tu vis et tu mourras dans cette prison. Pour qu'un homme que je sais te regarde un nombre compté de fois et ne t'oublie pas, et place ta figure et ton symbole dans un poème qui occupe un lieu précis dans la trame de l'univers. Tu souffres la captivité, mais tu auras donné un mot au poème. Dieu, dans le rêve, illumina la rudesse de la bête. Celle-ci comprit les raisons données et accepta son destin. Quand elle se réveilla, il ne resta d'ailleurs en elle qu'une obscure résignation, une ignorance courageuse, parce que la machine du monde est trop complexe pour la simplicité d'une bête sauvage. Plus tard, Dante se mourait à Ravenne, aussi injustifié et aussi seul que n'importe quel autre homme. Dans un rêve, Dieu lui révéla la secrète destination de sa vie et de son labeur. Dante, émerveillé, sut enfin qui il était et bénit ses épreuves. La tradition rapporte qu'en se réveillant, il eut le sentiment d'avoir reçu et perdu une révélation infinie, quelque chose qu'il ne pourrait jamais recouvrer ni même entrevoir, parce que la machine du monde est trop complexe pour la simplicité des hommes.
Nous parlions en commençant du baroque comme d'une expression essentielle de l'art américain. Et c'est encore un baroque, mais différent de celui de Borges, qui va nous frapper à la lecture d'Alejo Carpentier. Cubain de père français ou parisien de la Havane, Carpentier a partagé sa vie entre un long séjour à Paris, c'est ce qu'il appelle son époque surréaliste, des explorations en Amazonie et des voyages à Haïti. De l'Amazone sort le monde archaïque, séparé d'une autre par 2 ou 3 000 ans, que décrit le roman Le Partage des Eaux. Au passé d'Haïti est emprunté le premier roi nègre, Henri Christophe, autour de qui va tourner un autre roman, Le Royaume de ce monde. Il n'est pas sans importance de savoir qu'il a aussi consacré une étude au vaudouisme et à la santeria, religion populaire des îles Caraïbes, mélange du catholicisme espagnol et, apport dont nous n'avons pas encore parlé, des mythes africains. La forêt, les couches du passé, le syncrétisme, en quoi elles se résorbent, vont se superposer, s'accumuler pour donner naissance à un baroque plus explicitement américain. Ce n'est pas celui de Borges, rempli de citations, d'estampes chinoises et même parfois de chinoiseries, mais un baroque moins élégant, moins orchestré, plus direct. L'accumulation est celle des objets et des détails. L'abondance est comme végétale, nourrie d'ornementation. Comme chez Borges, le baroque recouvre un mouvement plus profond, en l'occurrence une dialectique qui traverse l'un après l'autre tous les romans de Carpentier jusqu'à ce siècle des Lumières qui vient de paraître en français. Qui sont en effet les personnages? Quelles idées ont-ils? Ce sont les deux mondes de Carpentier, Paris et la jungle, qui permettent de le comprendre. Fondamentalement, ces personnages sont doubles. D'un côté, l'obscurité américaine, parfois identifiée à l'enfance, comme dans le passage qu'on va lire. De l'autre côté, l'intellect et les idées nouvelles représentées par la Révolution française ou par la Révolution tout court. Prenons le siècle des Lumières. Nous sommes à La Havane en 1789. Sofia, Victor, Esteban, membres de la riche bourgeoisie, viennent d'hériter. L'argent abonde et les achats les plus absurdes ne se font pas attendre. Ce sera le prétexte d'une accumulation d'objets magistralement reproduite sur le plan verbal. Mais ce désordre arcadien ne durera guère. Le commerçant Victor Hugues, porte-parole de la Révolution, va apparaître et avec lui l'abolition de l'esclavage, l'égalité puis la première guillotine et le retour de l'esclavage devenu impérial. La veille de Noël commencèrent à arriver des caisses et des emballages que l'on plaça au fur et à mesure dans les pièces du rez-de-chaussée. Du grand salon jusqu'aux remises, c'était une invasion de choses qu'on laissait à moitié entre leurs planches, vêtues de paille et de copeaux, dans l'attente d'une destination finale. C'est ainsi qu'un lourd buffet apporté par 6 portefaix noirs s'attardait dans le vestibule, tandis qu'un paravent en laque poussé contre un mur n'en finissait pas de sortir de son emballage clouté. Le tapis du billard était une prairie qui s'étendait entre la glace d'un miroir rococo et le profil sévère d'un bureau en marqueterie anglaise. Un soir, on entendit des détonations dans une caisse. Les cordes de la harpe que Sophia avait commandée à un fabricant napolitain, tendues par l'humidité du climat, éclataient. Comme les souris du voisinage entreprirent de nicher partout, des chats vinrent faire leurs ongles sur les fioritures des meubles de style et effilocher les tentures habitées par des licornes, des cacatoès et des lévriers. Mais le désordre fut à son comble quand arrivèrent les engins d'un cabinet de physique qu'Esteban avait commandé pour remplacer ses automates et ses boîtes à musique par des distractions susceptibles d'instruire tout en amusant. C'étaient des télescopes, des balances hydrostatiques, des morceaux d'ambre, des boussoles, des aimants, des vis d'Archimède, des modèles de treuil, des tubes communicants, des bouteilles de Leyde, des pendules et des balanciers, des machines en miniature auxquelles le fabricant avait ajouté, pour suppléer au manque de certains objets, une trousse avec les dernières inventions en fait de mathématiques. De jour en jour s'était édifié dans la maison un labyrinthe de caisses où chacun avait son coin, son appartement, son étage où s'isoler ou bien se joindre à un autre pour bavarder autour d'un livre ou d'un appareil de physique qui s'était mis à fonctionner soudain de la façon la plus inattendue. Il y avait une sorte de rampe, de chemin alpestre, qui partait du seuil du salon en passant par-dessus une armoire couchée, pour monter jusqu'aux 3 caisses de vaisselle posées l'une sur l'autre, du haut desquelles on pouvait contempler le paysage d'en bas, avant de grimper par de rocailleux sentiers de planches brisées et de lattes dressées comme des chardons, avec quelques clous saillants tels une épine, jusqu'à la grande terrasse, constituée par les 9 caisses de meubles qui obligeaient l'expéditionnaire à coller sa nuque contre les poutres du plafond. Tout répondait à la nomenclature d'un code secret. Tel amas de caisses sur le point de s'écrouler était la tour penchée. Le coffre qui servait de pont, posé entre 2 armoires, était le défilé des druides. Qui parlait de l'Irlande voulait dire le coin de la harpe. Qui mentionnait le Carmel désignait la guérite faite de paravent à demi ouvert où Sophia s'isolait habituellement pour lire des romans à mystère qui donnaient le frisson. Quand Esteban mettait en mouvement ses appareils de physique, on disait que le grand Albert travaillait. Tout était transfiguré par un jeu perpétuel qui établissait de nouvelles distances avec le monde extérieur dans l'arbitraire contrepoint de vie qui se déroulait sur 3 plans différents. Le plan terrestre, pour ainsi dire, où opérait Esteban, peu amateur d'ascension à cause de sa maladie, mais toujours envieux de celui qui, comme Carlos, pouvait sauter de caisse en caisse tout au haut des cimes, pendant que Sophia menait sa propre vie dans une zone intermédiaire, située à environ 10 empans du sol, les talons au niveau des tempes de son cousin. Au reste, le dîner de l'aube avait lieu à la lumière des candélabres, dans une salle à manger envahie par les chats.
Nous allons aborder maintenant la seconde des tendances dont j'ai parlé en commençant, la reproduction directe. À tout écrivain sud-américain se pose un problème vital. Il voit d'un côté l'Indien, le paysan, exploité pour un salaire minime, de l'autre, les grands propriétaires et les trusts. L'œuvre d'Asturias n'a pas d'autre objet. Asturias écrivit un premier livre de méditation sur son pays, le Guatemala, tandis qu'il étudiait l'ethnologie à la Sorbonne à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ce livre, intitulé « Légende du Guatemala », fut apprécié entre autres par Valéry, et Asturias décida de continuer son œuvre sur place et au présent. Ce changement de lieu et de temps, ou plutôt ce retour à l'immédiat, produisirent une œuvre vivante, colorée comme ces tableaux de Guayasamin où la dénonciation sociale occupe le premier plan. Le plus connu des livres d'Asturias, « Weekend en Guatemala », relate la chute du gouvernement Arbenz. Voici un passage où les figures s'animent comme dans une fresque maya par petits mouvements mécaniques, humoristiques et angoissés à la fois. La grande maison d'une famille bourgeoise de province va servir de quartier général aux combattants gouvernementaux. Les meubles ont été déplacés et il faut opposer le vide ainsi fait au plein que nous voyons chez Carpentier. Les groupes de soldats s'installent.
La grande maison des Mercados, sépulture de deux vieilles filles et d'une nièce mal mariée, avec trois enfants. Elle paraissait morte. En peu d'heures, elle entra en activité. Des hommes volcaniques, de feu, aveugles, bruyants. Des figures de lave, des mains de lave, des dents et des ongles de fumée durcis. Avec leurs poings garnis de gants, ils jetèrent par terre deux ruches. Et on entendit le rugissement de ceux qui furent atteints par les abeilles. Ils jurèrent et blasphémèrent jusqu'à ce que leur langue se paralyse. Des antennes, des fils, des câbles, des escaliers, des pas sur les terrasses, des coups dans les soubassements, des équipes qui furent remplacées quand la maison fut enfin installée par des chefs galonnés aux jambes élastiques, peu communicatifs et stricts dans leur solitude d'éléments responsables. Quelques-unes des fenêtres ouvertes toutes grandes sur la rue principale montraient des officiers en chemise kaki ou en tunique verdâtre, tandis que la porte du vestibule, où l'on avait posté des sentinelles, était à peine assez large pour avaler et vomir les gens qui entraient et sortaient. En quelques heures, oui, en quelques heures, tout changea en quelques heures. Les yeux de la plus guindée des vieilles filles, yeux d'eau avec de la cendre, se fixèrent sur le général, colonel, commandant. Qui sait quelle gratte il avait au milieu de ce fleuve de militaires. Quand celui-ci leur fit savoir qu'à partir de ce moment, le quartier général des opérations serait définitivement installé dans leur maison. C'était un homme petit, fort, avec une grosse tête. Dans le coin de ses paupières et des commissures de ses lèvres, se formaient de riantes petites rides quand il parlait.
Colonel Léon Prinani de Léon.
La vieille fille qui faisait office de maîtresse de maison s'approcha de sa sœur qui était un peu dure d'oreille et lui cria
« Colonel Léon Prinani de Léon !»
avec la voix de quelqu'un qui, à force de rester silencieuse, oublie comment s'émettent les sons. Après avoir mis en mouvement sa langue, ses lèvres, les charnières osseuses de ses mâchoires, celle-ci souffla à son immatérielle sœur
« Dis-lui comment nous nous appelons !»
« C'est vrai, colonel !» Luz Mercado et ma sœur Sofia. Et voici notre pauvre, ma pauvre, notre pauvre nièce, Valeria Mercado de
Najarro.
Dit pour aider à sa présentation Valeria, fille d'un frère défunt des vieilles demoiselles. La présence de militaires avait rendu la vie à la jeune femme. Elle avait fait sortir de la prostration dans laquelle elle était depuis la disparition de son mari, le fameux Hughes Najarro.
« Eh bien, mesdames !»
dit Prinani de Léon sans quitter des yeux la pauvre nièce, jolie femme couleur de terre, à la peau satinée comme celle d'un citron, triste comme un vase, et les yeux aussi noirs que les cheveux.
« Mesdemoiselles !»
rectifia la tante Luz.
« Pardon, mesdemoiselles. Vous nous aurez ici comme des temps, jusqu'à la fin de ces terribles événements. Le sol de la patrie, comme vous le savez, a été envahie par des troupes mercenaires. J'ai pris toutes les dispositions pour que votre maison, vos meubles, votre installation ne souffrent d'autres dommages que celui d'être occupée. Et en vous avertissant à juste titre que le gouvernement reconnaîtra le loyer que vous demanderez à dater de ce jour, ainsi que les dommages causés.
Le colonel Prinani de Léon, chef des opérations, était accompagné par d'autres officiers de haut grade. Et à peine avait-il averti les vieilles filles de l'occupation de leur maison, que ceux-ci prirent d'assaut le salon et la salle à manger, tandis que la nièce passait son lit et les petits lits de ses enfants dans une pièce contiguë à la cuisine. En cas d'ennui, il est préférable d'être près du feu pour chauffer le lait des enfants. Et que les tantes casaient leurs vieux os et leurs meubles dans l'oratoire pour être plus près de Dieu, en lui demandant pardon de cette familiarité avec ses saints. Non à cause d'un manque de pudeur en s'habillant et se déshabillant devant eux, mais parce qu'ils étaient beaux garçons, malgré leurs yeux de verre. Les présentations faites, Valéria resta près des vieilles. Elle suivait de ses yeux si noirs qu'ils en embraient ses joues légèrement cuivrées, les allées et venues d'un caporal claudiquant qui faisait claquer sa cravache chaque fois que son regard rencontrait le sien, et qui, une fois toutes choses emmagasinées dans la chambre des tantes, demanda la clé de la tante Louse.
Souvenez-vous que vous avez donné la clé au caporal Mamerto Coy pour vous servir.
Plus tard, à l'un des bouts de la table de la salle à manger, longue et étroite, s'accoudèrent les seconds du chef des opérations autour d'une carte extraite d'un portefeuille. La tante dure d'oreille finit par voir Valéria regardant par les vitres de la salle à manger ce que faisaient les officiers et, sans faire de bruit, vint lui planter ses ongles dans le bras. La nièce se contenta de le retirer, se pressant l'endroit du pinceau avec sa main ouverte pour faire passer la brûlure.
« Mauvaise fille, te voilà en train d'épiller ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Trop soumise, c'est par soumission qu'est arrivé ce qui t'est arrivé en te mariant avec celui qui ne te méritait pas. »«
Je n'étais pas en train d'épier, tante. J'ai cru en reconnaître un qui était très ami avec Tius. » Et c'est pourquoi je regardais. Mais ce n'était pas lui.
Tchout, tchout, tchout. Comment n'as-tu pas honte d'en parler? T'abandonner avec les enfants? A-t-on jamais vu cela? Si nous n'avions pas été là, tu demanderais l'aumône.
Si chez Asturias, nous voyons les événements et les personnages historiques dûment décrits ou satiriquement évoqués, c'est l'absence de cette espèce de ton épique qui frappe d'abord chez Juan Rulfo, le grand conteur mexicain né en 1918. Ici, la vigueur, le relief sont obtenus sans qu'on fasse appel aux batailles, aux révolutions, aux dialogues illustres. Les personnages ne sauraient être plus banaux, ils le sont au point de se perdre dans l'humilité la plus secrète de la province, du temps, de la race. Depuis Macario, l'adolescent dont nous ferons connaissance tout à l'heure, jusqu'à Anacleto Morones, le photomaturge, tous les héros de La Plaine en Flamme et de Pedro Páramo vivent dans le même univers. Lorsque nous regardons une fresque de Diego Rivera, nous rencontrons toujours au centre un grand dialogue de l'histoire, un fait militaire, un héros ou un envahisseur des conflits. C'est dans ce rectangle central que se place l'œuvre d'Asturias. Celle de Rulfo, au contraire, se placerait dans les angles estompés, obscurs, là où apparaissent ces Indiens et ces paysans qui, presque étrangers à l'événement central, y ont pourtant leur part, l'évoque et l'appui d'un geste, d'un regard. Écrivain du silence, malgré ses dialogues rapides, écrivain du temps figé propre au grand calendrier mexicain, écrivain du temps dessiné sur la pierre du soleil, celle qui garda les jours de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, signe de la vie et de la mort. Qui est Macario? Qui sont ailleurs Pedro Páramo ou Lucas Lucatero? On pourrait répondre personne, personne ou tout le Mexique, avec ses palais inhumains, ses dieux et le visage de ses dieux, chacun de ces moments de guerre et de paix pour tous les hommes et toutes les dynasties des hommes et des oiseaux qui le peuplèrent depuis le fond de son passé sans fin. Voici Macario, un peu demeuré ou peut-être trop savant, installé près d'une mare dans l'attente des gentilles grenouilles qui lui font tant de plaisir. Tandis qu'avancera le récit, nous pénétrerons plus avant, comme l'on suit un fil dans la trame de sa mémoire. Il est curieux de suivre les contacts tangentiels par quoi s'associent ses idées ou ses bribes d'idées. Macario est au bord d'une mare. Ses paroles sont si faibles qu'elles ne parviennent pas à former le fil d'un discours. Personne. Pas de temps. Rien. Les grenouilles.
Je suis assis près de la mare, en train d'attendre que sortent les grenouilles. Hier soir, tandis que nous dînions, elles ont commencé à faire un tapage du diable et n'ont pas cessé de chanter jusqu'au petit matin. Ma patronne l'a bien dit, elle aussi. À cause des grenouilles, elle n'a pu fermer l'œil. Et maintenant, elle voudrait bien dormir. Voilà pourquoi elle m'a demandé de m'asseoir ici, près de la mare, avec une planche dans la main, pour que chaque fois qu'une grenouille sortira, histoire de se détendre les pattes, je l'écrabouille à coups de planche. Les grenouilles ont le corps tout vert, sauf sous le ventre. Les crapauds sont noirs. Les yeux de ma patronne aussi sont noirs. Les grenouilles sont bonnes à manger. Les crapauds, non. Cependant, moi j'en ai mangé, et ils ont le même goût que les grenouilles. Felipa dit que c'est mal de manger les crapauds. Felipa a les yeux verts, comme les yeux des chats. C'est elle qui me donne à manger dans la cuisine chaque fois que j'en ai envie. Elle ne veut pas que je fasse du mal aux grenouilles. Malgré tout, c'est ma patronne qui commande. J'aime mieux Felipa que ma patronne. Mais c'est ma patronne qui sort l'argent de son sac pour que Felipa achète notre nourriture. Felipa, elle, reste presque toujours dans la cuisine, où elle prépare notre repas tous les trois. Elle ne fait que ça depuis que je la connais. Les assiettes, c'est moi qui les lave. Le bois pour allumer la cuisinière, c'est moi aussi qui le transporte. Oh, bien sûr, c'est ma patronne qui nous donne notre part à chacun. Une fois qu'elle a mangé, elle fait avec ses mains deux petits tas, un pour Felipa et l'autre pour moi. Mais il arrive que Felipa n'a pas envie de manger. Et alors, les deux petits tas sont pour moi. J'aime Felipa à cause de ça, parce que j'ai toujours faim et je ne me sens jamais le ventre plein, même quand je mange son repas à elle. Il y en a qui disent qu'on se remplit le ventre en mangeant. Mais moi, je sais bien que le mien n'est jamais plein, même si je mange tout ce qu'on me donne. Oh, Felipa aussi, elle le sait bien. Ceux de la rue disent que je suis fou, parce que j'ai toujours faim. C'est ma patronne qui les a entendus. Moi, non. Ma patronne ne laisse pas sortir seule dans la rue. Quand elle m'emmène avec elle faire un tour, c'est pour aller à l'église, écouter la messe. Là, elle me fait asseoir tout près d'elle et m'attache les mains avec les pointes de son châle. Je ne sais pas pourquoi elle m'attache les mains. Elle dit que c'est pour éviter que je fasse des bêtises. Une fois, ils ont inventé que j'avais voulu étrangler quelqu'un, que j'avais serré le cou d'une dame, comme ça, sans raison. Je ne m'en souviens pas. Mais malgré tout, c'est ma patronne qui dit ce que je fais et elle ne raconte jamais de mensonges. Quand elle m'appelle pour manger, c'est vraiment qu'elle veut me donner à manger. Voilà pourquoi je suis content d'être chez elle. Et puis aussi, parce qu'il y a Felipa. Felipa est très bonne avec moi. Je l'aime à cause de ça. Le lait de Felipa est doux comme les fleurs de tulipe. J'ai bu du lait de chèvre et du lait de coche quand celle-ci vient d'avoir ses petits. Mais ce n'est pas aussi bon que le lait de Felipa. Ça fait longtemps qu'elle ne me laisse plus sucer les jolies outres qu'elle a, où nous n'avons que des côtes. Et d'où il sort, quand on sait s'y prendre, un lait meilleur que celui que nous donne ma patronne, le dimanche au déjeuner. Avant, Felipa venait toutes les nuits dans la chambre où je dors. Et elle se couchait au-dessus de moi, ou s'allongeait dans un petit coin à mon côté. Puis, elle sortait ses jolies outres pour que je puisse sucer son lait doux et chaud qui glissait, allongeait sur ma langue. J'ai souvent mangé des fleurs de tulipe pour essayer de calmer ma faim. Eh bien, le lait de Felipa avait le même goût. Mais je le préférais parce que, en même temps qu'elle me donnait à boire, Felipa me chatouillait un peu partout. Après, presque toujours, elle restait endormie auprès de moi. Jusqu'au petit jour. Et c'était bon. Parce que je ne craignais plus d'avoir froid. Et que je n'avais plus peur d'être condamné à l'enfer si je mourais, seul, ici, une nuit. Il y a des fois où l'enfer ne me fait pas aussi peur. Mais d'autres fois, si. J'imagine alors que je vais aller en enfer un de ces jours, parce que j'ai la tête dure et qu'il me plaît d'en donner des grands coups contre la première chose que je rencontre. Mais Felipa s'approche et elle chasse ma peur. Elle me chatouille avec ses mains, si habile, et la peur que j'ai de mourir disparaît. Durant un petit moment, il m'arrive même d'oublier tout. Felipa dit, quand elle a envie d'être avec moi, qu'elle racontera au Seigneur tous mes péchés, qu'elle ira bientôt au ciel et bavardera avec lui, lui demandant de me pardonner toute la méchanceté qui m'emplit le corps de la tête aux pieds. Elle lui dira de me pardonner pour que je n'aie plus de soucis. Voilà pourquoi elle se confesse tous les jours. Non parce qu'elle est méchante, mais parce que j'ai le corps plein de démons et qu'elle doit me purger de tous ces diablotins en se confessant pour moi. Tous les jours. Tous les soirs, exactement. Tant qu'elle vivra, elle le fera. C'est ce que dit Felipa. Je l'aime beaucoup à cause de cela.
De ce glissement vers la reproduction directe, l'exemple le plus frappant est l'évolution de Pablo Neruda. L'œuvre du poète chilien, né en 1904, constitue comme une grande parabole dans laquelle on marquera trois points. D'abord, les 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée, poèmes de jeunesse au ton élégiaque et nocturne qui restent attachés par leur thème, l'amour, la déception, la nuit, à la tradition hispano-américaine, mais qui donnent un souffle nouveau aux vieilles combinaisons métriques et strophiques.
Je peux écrire les vers les plus tristes ce soir. Écrire par exemple « La nuit est étoilée et les astres grelottent bleus au loin ».
Liberté du vocabulaire, absence de rime, irrégularité du vers. Le second point serait « Habiter la terre ». Livre étendu et de grande haleine, dans lequel Neruda incorpore à l'expérience hispano-américaine un surréalisme de bonne facture espagnole et française. L'onirisme et les jeux verbaux venus d'Europe s'intègrent aux réalités américaines pour donner le tango du veuf, le rituel de mes jambes, walking around. Enfin, vient le canto general, qui ne voudrait rien être d'autre qu'une image de l'Amérique tout entière, ses racines, ses fondations, ses héros, et même son climat, ses paysages, ses oiseaux, ses fruits, ses fleurs. Les poèmes récents marquent toujours plus l'engagement politique de l'auteur, tendent toujours plus à la dénonciation sociale dans un style extrêmement direct et même allittéraire. Voici, de la troisième étape, deux poèmes du Canto General. Le premier évoque la plage de Varadero. Personne ne part comme Neruda d'un contact direct avec le paysage. Si chez Borges l'intellect est dominé par la nostalgie, chez Neruda, le réel se transforme continuellement sous l'action de l'imaginaire. C'est à ce point que commence la poésie.
Varadero en Cuba. Fulgor de Varadero desde la costa eléctrica, cuando, despedazándose, recibe en la cadera, la antilla, el mayor golpe de luciérnaga y agua, el sinfín fulgurario del fósforo y la luna, el intenso cadáver de la turquesa muerta, y el pescador, oscuro, saca de los metales una cola erizada de violetas marinas.
Varadero a Cuba. Éclair de Varadero, jaillit de la côte électrique, se déchiquetant, recevant l'antille dans la hanche, le choc du verre luisant et de l'eau, la fulguration sans fin du phosphore et de la lune, le cadavre intense de la turquoise morte, et le pêcheur obscur tire des métaux une queue hérissée de violettes marines.
Quiero volver al sur. Enfermo en Veracruz, recuerdo un día del sur, mi tierra, un día de plata como un rápido pez en el agua del cielo. Loncoche, Lonquimay, Carahue, desde arriba.
Malade à Veracruz, je me souviens d'un jour du sud, ma terre, un jour d'argent. Comme un poisson rapide dans l'eau du ciel. Loncoche, Lonquimay, Carahue, étendu là-haut, environné de silence et de racines, assis sur leur trône de cuir et de bois. Le sud est un cheval englouti par les eaux, couronné de lents arbres et de rosées. Quand il dresse son museau vert, les gouttes tombent. L'ombre de sa queue mouille le grand archipel, et dans ses entrailles grandit le charbon vénéré. Jamais plus, dis-moi ombre, jamais plus, dis-moi main, jamais plus, dis-moi pied, porte, jambe, combat, tu ne bouleverseras la forêt, le chemin, l'épi, le brouillard, le froid, ce qui, bleu, déterminait chacun de tes pas sans cesse consumés. Ciel, laisse-moi un jour m'en aller d'étoile en étoile, piétiner la lumière et la poudre, prodiguer mon sang jusqu'à parvenir au nid de la pluie. Je veux aller derrière le bois, dans le fleuve Tolten parfumé. Je veux sortir des scieries, entrer dans les cantines, les pieds trempés, me guider à la lumière du noisetier électrique, m'étendre près des bouses de vaches, mourir et revivre en mordant du blé. Océan, apporte-moi un jour du sud, un jour cramponné à tes vagues, un jour d'arbres mouillés, apporte un vent bleu polaire à mon drapeau froid.
Thank you.
RTF France 3 National vient de vous présenter Domaine étranger. Aujourd'hui, littérature espagnole de l'Amérique du Sud, première émission par Severo Sardui. Avec le concours de Françoise Fechter, Jacqueline Morane, Anne Pérez, Raymond, Michel Bouquet, Roger Dumas, Raymond Jourdan, Pierre Leproux, Renaud Marie, Michel Vitold. Prise de son Pierre Simon, assistante Nicole Vuillaume, production Jacqueline Arpet, réalisation Georges Gravier. C'était Domaine étranger.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 9 janvier 1963.